Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à 22h sur RTL dans ce magnifique cabinet de curiosité. Vous pouvez réagir comme tous les soirs au 3210 sur RTL.fr ou sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, le hashtag la curiosité. RTL, ça va Sidonie?
Oui, ça va. Vous dites magnifique Thomas pour les carreaux rouges ou la moquette kaki?
La moquette, oui, kaki, on peut dire ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de la couleur.
Mais c'est une belle équipe qui nous entoure, oui. C'est une belle chaleur humaine. Allez, au programme, les curieux, la découverte d'une science passionnante. C'est la cryptozoologie, la science des animaux cachés, méconnus, des animaux mystérieux. Eh bien oui, nous n'avons pas encore découvert tous ces animaux qui peuplent notre terre et nos océans, et c'est plutôt une belle nouvelle.
Et puis, alors que le prix Nobel de chimie est revenu aujourd'hui à trois hommes, dont le français Jean-Pierre Sauvage, on va retracer le destin des femmes prix Nobel de science. Elles ne sont que 17 à l'avoir obtenu depuis 1901, parmi elles les françaises Marie Curie, sa fille Irène Joliot-Curie, ou la biologiste Françoise Barré-Sinoussi. On vous racontera leur histoire tout à l'heure, mais tout de suite donc, on embarque sur le plus beau, le plus gros paquebot du monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Il fait rougir les paquebots du monde entier. L'Harmony of the Seas fait 362 mètres de long. C'est 100 de plus que le Titanic.
RTL.
Dans cette gigantesque masse flottante, on trouve 40 restaurants, plusieurs piscines, un théâtre.
Jusqu'à 22h.
Un bateau de même dimension que ce paquebot doit être livré en 2018. Au total, plus de 6000 passagers peuvent être accueillis dans ces cabines.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je dis oui.
Vous êtes prêt à
m'offrir
un séjour sur le prochain paquebot?
Non, c'est pas ça, je me suis trompée.
Désolé, on va y réfléchir, on va lancer un truc collaboratif.
On va raconter l'histoire.
Si vous voulez inviter Sidonie Bonnec sur le plus gros paquebot du monde, participez.
Appelez au 3210.
Voilà, appelez au 3210. Harmony of the Seas, c'est le nom de ce paquebot lancé en mai dernier. Géant des mers construit dans les chantiers de Saint-Nazaire. Nos invités, vous nous racontez à la fois l'histoire de la construction du bateau et puis l'ambiance à bord de cette Harmony of the Sea. Bonsoir Renaud Etru.
Bonsoir Thomas.
Bienvenue. Bonsoir Yves Roche-Congar. Bienvenue. Vous êtes tous les deux montés à bord dans des conditions différentes, on le verra. Peut-être à l'un et à l'autre, votre première impression avant d'embarquer, là, quand on est sur le quai et qu'on voit ce monstre, Renaud Etru.
La première chose qu'on voit, en fait, c'est une sorte d'énorme immeuble. Parce qu'en réalité, c'est l'équivalent d'un immeuble de 22 étages. Donc, on a une sorte de masse comme ça, un mur immense. Et ça ressemble pas du tout au bateau qu'on peut avoir vu quand on était gamin, type le Titanic ou le France. C'est vraiment autre chose. C'est une sorte d'immeuble couché sur l'eau.
Et vous, Yves Roche-Congar, qui l'avez vu à différents stades de la construction, quand vous l'avez vu terminé, vous vous êtes dit quoi?
C'est pareil, c'est un grand immeuble, sa hauteur est de 70 mètres, je crois, donc c'est très grand. Son poids est plus lourd que celui d'un tour Eiffel, donc vous connaissez ces chiffres, c'est quelque chose d'immense.
C'est immense, mais tout en ayant un look un peu quand même gracieux.
Gracieux, bien sûr, parce qu'il est bien dessiné, et d'une façon scientifique. La deuxième chose qu'il faut, que humainement, tout bêtement, les gens disent quand ils nous le font visiter, t'as vu le bestiaux.
C'est vrai que c'est un sacré bestiaux, 60 000 tonnes d'acier nécessaires pour le construire, donc ça donne une petite idée de l'ampleur du chantier. Renaud Etru, quand on arrive à bord, on rentre dans une ville, c'est ça? Bienvenue.
Exactement, en fait, ce bateau est conçu comme une sorte de ville flottante. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, on arrive dans la Royal Promenade, et en fait, dans la Royal Promenade, il y a des restaurants, il y a des bars, ça fait aussi galerie commerciale. Donc on a l'impression d'être dans une sorte de mall, vous savez, ces énormes supermarchés américains. C'est la première impression qu'on a, et la première vision qu'on a une fois à bord.
Yves Roche-Condard, vous étiez journaliste au quotidien Ouest-France et vous avez été un témoin privilégié de la construction du bateau. Vous la racontez d'ailleurs, cette construction, dans un livre publié aux éditions de La Martinière. Quand on dit que c'est le plus gros paquebot du monde, ça représente quoi en population, en accueil de visiteurs et de voyageurs?
Alors, ce bateau peut embarquer 2000 personnel d'équipage. D'accord. Et 6300 passagers à peu près.
Ah oui, voilà. C'est immense.
C'est immense, c'est une ville, il y a environ 20 ponts. Par conséquent, c'est une ville où les gens ne se marchent pas sur les pieds, c'est ce qui était étonnant.
Qu'est-ce qu'on appelle...
Grâce, grâce à, en particulier à cette rue centrale. Il y a plusieurs espaces comme ça qui permettent aux gens de circuler sans se marcher sur les pieds, c'est ce que je disais.
Donc, il y a carrément une rue dans ce paquebot. Et qu'est-ce que vous appelez des ponts, 20 ponts, ça représente quoi quand on n'a jamais eu la chance de monter sur un bateau aussi grand?
Les ponts, ce sont des étages. Comme pour revenir au bâtiment classique, ce sont des étages, mais là on dit un pont. Il y a le pont principal, bien sûr, qui est celui au-dessous duquel se trouvent toutes les machines et toutes les choses, des endroits où les passagers ne vont jamais. Mais après, il y a des étages avec des coursives et des cabines. Il y a
évidemment.
Pour 6300 passagers, il y a 3000 cabines à peu près.
Ouais. Renaud Etru, vous avez passé une semaine à bord pour un reportage diffusé sur M6 dans l'émission Zone Interdite l'été dernier. C'est quoi les services qu'on propose aux passagers? Tiens, par exemple, les cabines, il y a différents niveaux, la plus luxueuse.
Alors, la cabine moyenne fait à peu près 24 mètres carrés. Alors, c'est pas si petit que ça en réalité, hein. C'est pas tout petit. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'au niveau des cabines, vous pouvez avoir plusieurs options. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une option qui est vue sur mer, ça c'est classique. Mais alors, vous pouvez aussi avoir vue sur l'immeuble d'en face. Parce qu'en réalité, c'est conçu comme une sorte de U. C'est conçu
d'accord.
En U. Donc, parfois, on peut très bien ne pas voir la mer du tout, vous voyez. Et puis, il y a quelques cabines aussi, où alors là, vous n'avez pas la vue sur mer, ni la vue sur l'immeuble d'en face, mais vous avez vue sur un écran. Où en fait, il y a des équipes qui filment la mer. Donc en fait, la seule vision que vous avez, c'est un écran avec la mer. Ouais.
Et donc ça, c'est la taille standard. Il y a des cabines ultra luxe aussi sur le Harmony of the Seas.
Il y a des cabines avec des suites qui sont aussi grandes que celles qu'on peut trouver dans les plus grands palaces parisiens. Donc la moyenne, d'ailleurs, les tarifs, une semaine, c'est 2400 euros. Ça commence à 2400 euros. Mmh. Mais quand vous êtes dans une suite comme celle-là, vous pouvez rajouter un zéro.
Ah oui. D'accord.
Ouais.
20 000 euros.
Oui, la semaine, oui.
Pour avoir les moyens.
Donc, on va attendre un peu avant d'y aller, peut-être.
Ouais. Quelques siècles.
Voilà. La compagnie a dû faire face à un drame il y a quelques jours, il y a deux semaines. Ça s'est passé à Marseille. On va vous raconter ça dans un instant. Et puis, on va aussi continuer de découvrir les étapes de la construction de ce géant des mers.
La curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, 20h-22h, vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Harmony of the Seas, c'est l'histoire du plus gros paquebot du monde que l'on vous raconte dans La Curiosité avec Yves Roche-Condard, ancien journaliste à Ouest-France, et le réalisateur Renaud Etru. Vous avez réalisé un reportage pour l'émission Zone Interdite. On le disait tout à l'heure, la compagnie de ce grand paquebot, plus grand paquebot du monde, a dû faire face à un premier drame. C'était le 13 septembre dernier. Et c'est à Jean-Alphonse Richard qui le racontait dans le journal d'RTL de 12h30.
Accident spectaculaire qui se produit donc ce matin à quai dans le port de Marseille, lors d'un exercice de sécurité sur l'Harmony of the Seas. 5 personnes du personnel navigant ont embarqué à bord d'une chaloupe de sauvetage arrimée sur le 5e pont du paquebot, c'est-à-dire très en hauteur. Le bateau de sauvetage devait alors descendre automatiquement sur la mer, mais pour une raison inconnue, cette petite embarcation s'est brutalement décrochée. Le choc a été très violent. Un premier bilan donné par le bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille fait état d'un mort et de 4 blessés.
Renaud Etru, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était une erreur technique, une erreur humaine?
Ce qui se dit, c'est que c'était une erreur humaine. A priori, c'est pas lié du tout à la conception du navire. Mais je dirais, tout à l'heure, on parlait d'une ville flottante. C'est la même chose que dans une ville. Il peut y avoir des drames, il peut y avoir des accidents, il y a des joies, il y a des peines. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. A priori, c'est humain.
A priori, c'est une erreur humaine. Yves Roche-Congard, vous avez des infos là-dessus?
Oui, c'est sans doute une erreur humaine, mais il y a une enquête quand même qui s'est produite. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce bateau-là, et toutes ces embarcations qui quand même sont capables d'emmener 370 personnes à chaque fois,
rapidement,
ces chaloupes, ont toutes été vérifiées, puisque chaque lot du navire, il y en a des milliers, est vendu à l'armateur et en présence des uns et des autres.
Oui, on imagine qu'il y a eu des tests dans tous les sens avant de certifier le bateau.
Tous les essais sont faits d'une façon méthodique et donc on peut malheureusement penser que c'est une erreur, comme ça arrive assez souvent à bord des navires d'ailleurs, ce n'est pas, pas simplement sur
celui-là. Renaud, on va se mettre dans la peau d'un passager, puisque c'est ce que vous avez fait pour ce reportage diffusé l'été dernier sur M6. Est-ce que, tiens, vous aviez-vous des a priori sur les croisières avant d'embarquer sur la Harmony of the Seas?
Sincèrement, oui. La première, c'est qu'on se dit, les croisières, ça peut être un peu ringard. Et puis, ça concerne une clientèle plutôt âgée. Et en réalité, on se rend compte qu'on a probablement pas mal de retard en France, parce que aux États-Unis, par exemple, la moyenne des passagers aujourd'hui, elle se situe aux alentours de 40 ans. Donc en fait, non, c'est pas du tout un produit, ce qu'on peut parler de produit, mais c'est pas du tout un produit ringard. Je pense que c'est un produit qui s'adresse plutôt aux familles.
Vous dites même que c'est une sorte d'antidépresseur.
Oui, pourquoi? C'est vraiment ce que je pense. Parce que très sincèrement, quand on part après avoir tourné des sujets dans Paris et tout au long de l'année dernière, ça n'a pas été forcément très marrant pour les Parisiens et pour la France entière. Bref, quand on embarque sur ce bateau, très vite, on rentre comme dans une bulle. C'est-à-dire que très rapidement, on se rend compte que tous les passagers qui sont là pour s'amuser, pour faire la fête, pour profiter, non seulement sur le bateau, mais aussi lors des escales. Et donc, très rapidement, on se retrouve un peu comme dans un parc d'attractions, en réalité. Alors, si on aime ça, on rentre complètement dedans et on s'éclate. En revanche, si on aime les vacances sur une île déserte, c'est pas là qu'il faut aller. Non.
Donc l'unité de lieu crée vraiment une ambiance très particulière. Vous disiez qu'on dirait un immense immeuble. Est-ce qu'on se sent comme dans un immeuble sur ce bateau, ou alors ça tangue quand même petit peu?
C'est conçu comme une ville. Donc qui dit... une fois qu'on a dit ça, en réalité, ça bouge pas. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Et même lorsqu'il y a... il peut y avoir mauvais temps, ça bouge quasiment pas. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que sur le bateau, par exemple, il y a une patinoire. Donc vous imaginez bien que si jamais le bateau tanguait, il y aura un petit problème au niveau du spectacle. Donc non, en réalité, le bateau ne tangue quasiment pas du tout.
Alors c'est génial pour les voyageurs, il n'y a pas d'amarinage possible et donc tout le monde peut venir, même si on a le mal de mer.
Oui, je pense que oui. Alors, je ne suis pas l'attaché de presse du bateau. Oui, venez tous, vous allez vous éclater.
Mais tiens, on va dire que vous n'êtes pas l'attaché de presse. Parce qu'on imagine 6300 personnes, 6300 passagers, il faut rajouter l'équipage. Il doit y avoir des embouteillages partout. On est en file d'attente permanente, non?
Bon, donc je n'ai pas de part dans la société qui détient ce bateau. Non, mais en réalité, là aussi, moi, j'ai été bluffé. C'est-à-dire que par rapport à, par exemple, à certains parcs d'attractions où vous faites la queue pendant une heure, là, c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que on est dans un système réellement très 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 professionnel à l'américaine. Et en réalité, par exemple, vous pouvez, quand vous partez dîner le soir, vous ne faites pas plus la queue qu'ailleurs.
Parce qu'il faut quand même rappeler que sur 6000 et quelques passagers, il y a 2000 personnes dans l'équipage, donc c'est quand même énorme. C'est quasiment...
Non, on rajoute le nombre d'équipage.
Ah, 6300, c'est en plus.
C'est seulement les passagers.
En tout, c'est un petit peu moins.
C'est ce que je dis.
Quand c'est full, c'est genre 10 000, quoi. Pas loin de
10 000 à bord.
En tout.
Ouais. Et ce restaurant, il y a plusieurs restaurants. Yves Rochongard, le plus grand restaurant, vous l'avez vu forcément, puisque vous êtes monté à bord quand le bateau était quasiment prêt à être livré. Ça, c'est immense, ça ressemble à quoi?
C'est sur trois ponts.
Sur trois étages.
Trois étages à l'arrière du navire. Mais il y a 3000 personnes qui peuvent manger en même temps. Mais il y a donc deux services à peu près. Mais il y a aussi plein de restaurants très, très
plus chic,
plus petits, avec des spécialités, des Japonais, des Mexicains, un peu de toutes les cuisines du monde. Et très abordable et très, très bien placé à tous les niveaux, y compris sur le pont supérieur.
Un bon souvenir, visiblement, pour vous.
Moi, j'ai fait que manger au cours des essais avec tout le monde, sans privilège.
L'histoire de ce paquebot gigantesque, on le disait tout à l'heure, est intimement liée à celle des chantiers de Saint-Nazaire. On peut même parler d'un projet absolument miraculeux pour les salariés. On raconte ce chantier lui aussi hors norme dans un instant, les curieux. Revenez sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
Dès que vous mettez les pieds à bord, vous arrivez dans un gigantesque centre commercial à l'américaine. Mais en réalité, quand vous parcourez les 17 étages du bateau, vous réalisez que c'est un parc d'attractions géant.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y
y a une tyrolienne, deux murs d'escalade, un manège, des théâtres, des piscines et jacuzzi. Et sur le pont numéro 4, vous découvrez la patinoire. Imaginez une patinoire sur un bateau. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est le toboggan de 30 mètres qui descend les 17 étages du bateau.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Armel Lévy qui faisait découvrir aux auditeurs d'RTL ce spectacle dingue qu'est le Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde. On vous y emmène et on le visite en détail dans la curiosité grâce à nos invités, les journalistes Renaud Etru et Yves Roche-Conga. Renaud Etru, vous avez dû négocier longtemps avant d'obtenir cette autorisation de tournage.
Oui, ça a été... Sincèrement, on le dit parfois, mais là, réellement, ça a été compliqué. On a mis réellement 6 mois. 6 mois à obtenir l'autorisation. Au début, c'était plutôt non. Parce que les compagnies ont un peu la trouille qu'on aille chercher éventuellement des aspects négatifs. Or là, sur ce bateau-là, j'ai eu beau chercher, j'en ai pas, il y en avait vraiment très peu.
C'était une première pour des journalistes de passer une semaine comme ça et de pouvoir montrer les coulisses.
Oui, en fait, c'était aussi une commande du diffuseur, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit ok, on fait le sujet, mais il faut que tu aies l'exclusivité.
D'accord.
Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est joué, mais c'était compliqué parce qu'il y avait tous les diffuseurs étrangers qui voulaient monter à bord pour la première croisière commerciale, c'est-à-dire la première croisière avec des passagers, et puis il y avait un peu toutes les chaînes de télévision.
Est-ce qu'avec votre caméra, Renaud Etru, ils vous ont laissé sur le Harmony of the Seas vous balader dans toutes les pièces sans aucune restriction?
Alors au début, ils ont eu un peu aussi une trouille, c'est qu'en réalité on était 6, c'est-à-dire qu'il y avait deux autres réalisateurs, il y avait Pierre Lascar et Vincent Lepreux, et comme on était 6, on devenait légèrement incontrôlable, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 6 personnes derrière chacun de nous. Mais en fait, très sincèrement, on a eu accès, j'ai eu la chance en tout cas que ça s'est réellement ouvert pendant le tournage, et il y a vraiment eu des séquences inédites où on s'est retrouvés dans les coursives.
Mais il y a quelques pièces interdites pour des raisons de sécurité, j'imagine.
Exactement.
On peut pas tout filmer.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, très curieusement, moi, ça me paraissait complètement anecdotique, mais je n'avais pas le droit de filmer certains accès, certaines portes. Et très rapidement, en fait, vous comprenez pourquoi. En fait, il s'agit de faire en sorte de ne pas donner, de ne pas montrer les images permettant d'accéder au bateau.
C'est pour la sécurité des passagers, quoi, du personnel.
Donc ça, c'était compréhensible et voilà, on n'a pas tourné.
Bien sûr. Yves Roche-Hongard, vous avez suivi les différentes étapes de la construction de ce bateau, pas comme les autres. Il faut dire un mot de l'annonce et de cette année 2012. On est en décembre 2012 et les salariés des chantiers de Saint-Nazaire ont passé une mauvaise année. Pourquoi ?
Pas une très mauvaise année, parce que comme souvent dans la construction navale, il y a ces dents de scie et c'était une année très très creuse. Les chantiers avaient loupé une commande qui sur laquelle ils comptaient et il y avait du chômage technique dans les ateliers et ainsi que dans les bureaux d'études.
Il y avait eu zéro commande pendant toute l'année 2012, c'est ça ? Et donc, le 27 décembre, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui se passe, c'est que c'est une commande tout à fait particulière et qui s'est passée en quelques semaines, en 3 semaines, et qui, d'une façon exceptionnelle, parce que un navire de telle ampleur, en général, c'est plusieurs mois de négociations, etc. Mm-hmm. Là, ça s'est passé en très peu de temps, par toute une raison simple, c'est que cette commande était entre les mains des chantiers STX de Finlande et qu'ils n'arrivaient pas à conclure pour des raisons de finances. Or, à ce moment-là, les RCCL, l'américain...
Alors, Royal Caribbean...
Caribbean Cruise Liner s'est tourné vers les chantiers de Saint-Nazaire qu'ils connaissaient depuis longtemps et dont ils connaissaient les qualités, et ils se sont rencontrés très rapidement, et ils ont fait affaire très rapidement grâce, et ça c'est le Laurent Castin, le directeur général, qui le dit lui-même, grâce quand même du ministère des Finances de Bercy.
D'accord,
de
parce
Bercy.
Il a fallu faire un certain nombre de concessions. Ce 27 décembre, c'est l'annonce du contrat.
Oui. Hein,
on imagine le ouf de soulagement pour les salariés des chantiers de Saint-Nazaire. Depuis, il y a eu des embauches. C'est quoi un chantier comme celui-là, quand on construit le plus gros paquebot du monde ? C'est combien d'années, de mois de travail ?
Là, c'était 3 ans de travail, 10 millions d'heures, donc c'est extraordinaire. On n'avait jamais vu ça, c'est miraculeux. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que depuis, ça s'est multiplié par 10 encore, ce qui a donc, les chantiers ont du travail jusqu'à l'an 2026.
Mais parce qu'il y a eu d'autres commandes, c'est ça?
Oui, une dizaine de commandes depuis.
Ouais. De paquebots similaires?
De même.
Ah, le même paquebot?
De même nature. Il y en a un autre, comme l'Oasis, c'est un Oasis Harmony of the Seas, mais c'est la classe Oasis. Il y en a un quatrième qui est en construction actuellement, qui sera livré dans 2 ans. Et bien surtout, il y a d'autres Américains, des bateaux un peu plus petits. Il y en a 4. Et puis surtout, il y a 8 pour les Italiens, franco-italiens et suisses de MSC.
Donc du travail pour des années pour les salariés des chantiers navals de Saint-Nazaire. Renault Etrus, c'est une fierté française, c'est cette histoire. Et pourtant, quand on monte à bord, on les cherche, les salariés français, ouais. C'est ça, il n'y en a pas?
Alors, c'est très cosmopolite. En réalité, je crois qu'il y a plus de 70 nationalités qui sont représentées sur le bateau. Alors, il y avait encore quelques ouvriers de STX qui étaient présents quand moi j'y étais pour les finitions.
D'accord. Et donc.
Mais comment construire un tel bateau? Je me demande quand même. On dit que c'est un immeuble. À la fois, j'ai lu que ça se construisait comme une pyramide. Faudrait savoir. Bon, vous allez nous expliquer dans un instant. À tout de suite, les curieux.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Dans la curiosité, on vous embarque sur le plus gros paquebot du monde, le Harmony of the Seas, avec nos invités Renaud Etru, producteur et réalisateur. Vous avez passé chanceux une semaine à bord, c'était pour le travail, hein, bien sûr, pour un reportage diffusé cet été sur M6. Et puis vous, Yves Roche-Condard, vous racontez la naissance d'un géant des mers, c'est aux éditions La Martinière. Il y a plusieurs salles de spectacle, j'imagine, dans un immeuble, un bâtiment flottant pareil, Renaud Etru, notamment l'Aqua Theater.
Oui.
C'est grand comment et qu'est-ce qu'on peut y voir comme spectacle?
Alors c'est très curieux, c'est une sorte d'énorme piscine qui est à l'arrière du bateau et il y a des spectacles un peu avec un côté un peu Star Williams, vous voyez, c'est spectacle américain. Et puis d'un seul coup, la piscine disparaît et puis le fond de la piscine remonte et là ça devient en fait une sorte de plancher de théâtre, quoi. Donc c'est un univers complètement incroyable, c'est à l'arrière du bateau et c'est sincèrement le spectacle le plus bluffant qu'on ait vu. Mais c'est pas le seul. Hein.
Mais il se joue tous les soirs, ce spectacle?
Ouais. Alors ce qui est incroyable. Étonnant aussi, c'est que les artistes, c'est vraiment des artistes au vol, parce que par exemple, les filles qui participent au show sur l'Aqua Theater, ce sont en fait des filles qui faisaient partie de l'équipe de natation synchronisée canadienne. Et tout est comme ça. En fait, on est vraiment dans un système américain.
Est-ce que ça fait penser au Cirque du Soleil, par exemple? Ce type de spectacle sont vraiment impressionnants.
Il y a même un théâtre à la Broadway, c'est ça? C'est une copie, le Royal Theater?
Ouais, c'est ça. Alors là, nous, quand on y était, il y avait Grease qui était joué, et c'était exactement... Enfin, c'était les équipes de Broadway hein, qui jouaient.
Donc, il y a pas mal d'artistes. Vous nous parliez tout à l'heure de ce Français patineur. Ouais. Combien il est payé, ça? On gagne bien sa vie quand on fait ce...
Alors, sur ce
quand
bateau...
on est artiste sur le Harmony of the Seas.
On y pense peut-être. Voilà. Non, mais si, c'est bien payé. C'est bien payé. Par exemple, ce patineur, mais même chose. Hein, c'est un patineur qui a travaillé avec Candeloro. Enfin, c'est vraiment des artistes de haut vol. Et... c'est quelqu'un qui touche environ 5000 euros. Alors, ce qui est très intéressant lorsqu'on travaille sur un navire, c'est qu'en réalité, vous n'avez aucun frais.
Bien sûr.
Une fois que vous êtes embarqué, vous travaillez très dur, parce que c'est vraiment à l'américaine, c'est-à-dire vous avez un gros salaire, mais il faut le mériter. Et en réalité, oui, il gagne 5000 euros par mois. Ouais.
C'est pareil pour les voyageurs, les passagers. C'est all-inclusive, c'est ça? Tout est compris, on ne sort jamais de pièces, de billets, tout est un peu transparent et facile.
Ça fait partie des stratégies commerciales de ces compagnies, c'est-à-dire que oui, vous avez un prix attractif, le all-inclusive, et c'est vrai que pour ce prix, sincèrement, vous n'êtes pas obligé de dépenser plus. Mais si vous avez envie d'aller boire un petit verre, si vous avez envie...
Ah, l'alcool n'est pas comprise.
Non.
D'accord.
Alors, les spectacles, c'est compris. Mmh. Franchement, les dîners, vous pouvez dîner tous les soirs. Alors, certes, ça sera dans le même endroit, mais c'est tout à fait... c'est plus que correct. Bon, après, si vous voulez vous faire un petit restaurant en amoureux dans un plus petit restaurant, là, ça devient payant et ça coûte en moyenne entre 30 et 50 euros en supplément.
Donc, il faut quand même faire attention aux suppléments. Yves Roche-Congar, on va redire un mot de la construction. Ce bateau, il a été construit sous un autre code, le A34, avant qu'on le nomme Harmony of the Seas. Je crois que c'était un an avant la livraison du navire. Sidonie disait tout à l'heure, ça se construit comme une pyramide. Comment ça ?
Oui, parce qu'on commence par poser un bloc, hein, puisque c'est de l'assemblage de blocs qui sont préfabriqués à terre, et après on les transporte avec dans la cale de construction, dans un bassin qui fait 900 mètres de long. Donc
Donc ça monte, niveaux s'élever comme une pyramide.
Sûr, ben oui, on avance de l'avant vers l'arrière, hein, et ensuite on monte petit à petit et on ne pose que sur quelque chose qui existe déjà. Par conséquent, on est obligé de faire comme une pyramide. Mais à la fin, ce n'est plus une pyramide, c'est quand même
ça devient le paquebot.
Un paquebot.
Et les pièces, qu'on voit assemblées sur le chantier de Saint-Nazaire. Elles sont préparées avant ?
Alors, elles sont préparées, assemblées d'abord dans les ateliers, mm-hmm. ensuite sur une plateforme qui se trouve à côté du bassin. Et là, on fait des blocs, ils appellent ça des blocs, c'est-à-dire des ensembles. Le plus gros fait 10 mètres de haut et 40 mètres de large, et pesait à peu près 1000 tonnes. Et donc, on a un engin aujourd'hui capable de le soulever, de le transporter et de le poser au millimètre près à l'endroit où il doit être posé. Et il y en a 86 comme ça.
Parce que c'est plus facile de travailler à terre que sur le bateau. On imagine que c'est compliqué.
Une heure de travail à terre équivaut à 3 heures.
Sur le bateau,
à bord. Donc, on a intérêt à faire le plus possible de travaux d'assemblage à terre. Sur le plat.
Vous avez évoqué une balade incroyable sur ce bateau, sur Harmony of the Sea. C'est la Royal Promenade, ça s'appelle comme ça forcément. Vous y avez fait un footing, Renaud Etru ?
Alors non, en réalité, la piste, elle est pas à cet endroit-là. Elle est autour du bateau et elle fait environ 700 mètres. Donc c'est déjà, c'est impressionnant.
C'est-à-dire que 700 mètres, c'est une piste. On peut faire le tour du bateau en jogging.
Oui, monsieur. Oui, parfaitement.
Et on le fait ou pas ? Vraiment, il y a des joggers ?
Oui, il y a quand même le matin. C'est une ville, on ne peut pas dire mieux. Il y a tout ce que vous pouvez trouver dans une ville classique. Quoi.
C'est tellement une ville qu'il y a même, Yves Roche-Congar, une centrale électrique à bord.
Oui, c'est une centrale électrique puisqu'il y a des diesels et des alternateurs qui vont donc faire de l'électricité, qui vont ensuite entraîner les hélices, qui ne sont pas des hélices, qui sont en fait des moteurs électriques extérieurs comme des hors-bord, ce qu'on appelle des pods. Et ça, c'est une grande technique qui est récente.
Mmh. Vous avez côtoyé les ouvriers qui ont bossé pendant 40 mois pour construire ce bestiau, c'est le terme qu'ils employaient et qu'ils vous ont donné, vous nous le livriez tout à l'heure. Il doit y avoir une fierté immense. Qu'est-ce qu'ils disaient de ce chantier pendant qu'ils travaillaient ?
Ah ben, les gens sont passionnés par leur travail. D'abord, ils sont très pressés par la réussite de leur... puisqu'à chaque instant, dès qu'un lot est terminé, il doit être vendu. C'est le terme qu'on emploie, c'est-à-dire qu'il doit être accepté par l'armateur, c'est-à-dire par le client. Et donc le travail doit être fait à l'heure et doit être bien fait. Et ça, c'est vraiment une contrainte extraordinaire qui stresse un peu les gens, effectivement. Mais les gens, effectivement, sont aussi très,
très fiers, hein.
fiers de réussir. Là-dessus, il n'y a pas photo de l'ingénieur aux travailleurs qualifiés, quand même très qualifiés, qui sont chargés de tel ou tel... travail.
Merci beaucoup, merci à tous les deux, Renaud Etru.
Merci.
Bon vent pour vos prochains reportages. Je pense qu'il y a un petit tour du monde en préparation. Profitez-en.
Merci.
Yves Roche-Congar, j'appelle le titre de votre livre Harmony of the Seas, naissance d'un géant des mers. C'est aux éditions La Martinière, photo signée Bernard Bigère.
Vous écoutez RTL.